Bonjour à tous et merci d'être avec nous ce matin. Et merci, Monseigneur Calvé, d'être avec nous aussi. Bonjour.
Bonjour.
Alors, dernièrement, nous avons parlé de votre intérêt, voire de votre passion pour l'histoire, le passé de l'Église en Nouvelle-Calédonie. Vous nous avez parlé des principaux livres sur l'histoire avec le Père Rosier, le Père Delbos, et également de tout le travail d'archives qui est fait à Rome et peut-être ici aussi. Pouvez-vous compléter cet entretien ?
Alors effectivement, l'intérêt pour l'histoire du Pacifique s'est beaucoup développé dans les années où moi-même, eh bien, j'essayais de faire avancer des ouvrages sur la Calédonie. Il y a un ouvrage qui a été très important et un travail, c'est celui fait par le père Ralph Wilgen, un père du Verbe divin, une congrégation qui est très engagée en particulier en Papouasie-Nouvelle-Guinée, et qui a fait un ouvrage qui fait vraiment autorité sur l'établissement de l'Église catholique dans le Pacifique, en Micronésie, en Polynésie et en Mélanésie. Donc c'est un ouvrage qui est malheureusement pas traduit en français, il n'existe que sous sa version anglaise, « The Founding of the Roman Catholic Church in Oceania », mais c'est un ouvrage qui est de base et qui a fait une compilation extrêmement complète de toutes les archives romaines. Autrement dit, tous les actes de l'autorité romaine concernant les missions sont soigneusement mis en évidence et expliqués les uns par les autres avec tous les acteurs qui ont travaillé à cela. Le père Wilgen, je l'ai rencontré à Rome, bien sûr, j'avais tenu à le rencontrer pour lui dire le travail que nous faisions, et il m'avait dit que lui-même souhaitait faire un deuxième ouvrage, mais que le champ était venu tellement vaste, le premier couvrait la période 1840-1875, et il comptait faire un deuxième sur 1875-1900. Et là, il avait réduit le champ sur Mélanésie et Micronésie. De l'autre côté, du côté de Tahiti, les pères des Sacré-Cœurs de Picpus avaient également un chercheur de grande qualité qui s'est mis à travailler là-dessus. De plus, quelqu'un que nous connaissions bien en Nouvelle-Calédonie avait fait un ouvrage qui est d'un genre littéraire introuvable sur le diocèse de Papeete, de Polynésie française. C'est cet ouvrage qui avait permis de déclencher l'intérêt et qui a été utilisé tant sur le domaine économique que sur le domaine d'éducation, c'est l'ouvrage du père Polodet. Également, comme je le disais, donc, les archives des pères maristes sont devenues vraiment utilisables par les chercheurs et il m'est arrivé fréquemment d'adresser des chercheurs de l'université de Nouméa, des chercheurs en histoire, aux archives des pères maristes et qui n'ont eu qu'à se féliciter des services qu'a pu leur rendre l'archiviste des pères maristes à Monteverde, à Rome. Il y avait également d'autres ouvrages sur lesquels certains sont arrivés un peu par hasard. Il y avait par exemple un historien du diocèse de Montpellier qui a écrit un ouvrage sur le père Montrousier. Le père Montrousier a eu un rôle très important en Calédonie, tant sur le plan historique que sur le plan scientifique. C'est un des premiers qui avait une formation dans les sciences naturelles et qui a décrit de nombreuses espèces, animales, végétales, également toutes sortes de papillons. Il y a un papillon célèbre qui porte son nom. Et donc, les gens ici de l'IRD, de l'Orstom, le considèrent aussi un peu comme un des leurs. Si bien que quand ils ont vu que je m'apprêtais à rééditer dans une édition propre au diocèse de Nouméa le travail et la biographie qui avait été faite sur Montrousier, ils ont tenu à s'y associer et en participant eux-mêmes, en faisant aussi une préface à plusieurs sur un des premiers scientifiques qui ont œuvré en Nouvelle-Calédonie, le père Montrousier. Également, un ouvrage qui est venu, alors là tout à fait par hasard, c'était une religieuse qui faisait des études de théologie à la faculté de théologie de Lyon, qui a pris contact avec moi et me disant « J'ai trouvé dans les greniers de ma famille dans le Massif central des cahiers et je me suis aperçu que ces cahiers étaient les cahiers qui étaient écrits par un père Jean Gilibert qui avait été missionnaire mariste en Nouvelle-Calédonie dans les années 1850 à 1860 et quelques, et qui, par exemple, a passé 8 ou 9 ans dans l'annexe de la mission de Bellep, c'est-à-dire à l'île Pot, Saint-Michel de l'île Pot. À ce moment-là, des ethnologues et des historiens m'ont dit « mais ça nous intéresse parce qu'on trouve dans ce genre d'ouvrage des traces des premiers contacts culturels entre Européens et le monde mélanésien. » Et c'est pas seulement des gens qui, comme les navigateurs, ont passé une semaine ou un mois en escale, on en parle beaucoup, mais ça, ce sont des gens qui écrivaient tous les jours et qui ont passé des années, qui ont vécu des changements de saison, qui ont vécu des événements coutumiers, et un certain nombre ont écrit des choses qui ont permis aux ethnologues d'expliquer des choses parce qu'ils ont eu des descriptions enfin complètes d'éléments qui restaient épars. Les mémoires de Jean Gilibert, son journal, a été publié avec l'aide d'universitaires. Nous avons recueilli ces cahiers, tout a été informatisé. Ensuite, on a retiré tout ce qui était seulement d'intérêt familial. Après quoi, cela a été publié. Et ça fait partie des ouvrages qui sont également disponibles pour l'histoire de la Nouvelle-Calédonie. Ouvrages qui sont irremplaçables, puisque c'était les premiers acteurs des contacts culturels.
Alors, on a envie de bénir l'époque où les gens écrivaient beaucoup et non pas comme nous, aujourd'hui, communiquer par Internet ou par réseaux sociaux.
Alors là, je dirais, nous pouvons avoir honte, mais c'est vrai que les premiers missionnaires étaient formés, avaient une formation qui était littéraire. Autrement dit, ils écrivaient et ils avaient une manière de présenter de manière littéraire leurs ouvrages, leurs lettres. Alors quelquefois, il ne faut pas en être complètement dupe. Eh bien, il y a une manière qui tient au genre littéraire qu'ils utilisaient, mais toujours est-il que ça laisse des témoignages. Dans notre époque moderne, les coups de téléphone ne laissent rien, ne laissent pas de traces. Les courriers électroniques en laissent très peu. Les autres dispositifs de communication électronique sont vraiment difficiles pour faire des documentations historiques. Et on a une catégorie de gens qui s'aperçoivent bien de cela. Eh bien, c'est dans un, non tout à fait une autre préoccupation, mais les gens de la justice. Quand ils recherchent quelque chose et des éléments de preuve, autrefois, on avait des éléments de preuve sur des comptes rendus, sur des rapports, sur des lettres. Maintenant, c'est très difficile de trouver des éléments de preuve, ou alors il faut rechercher très techniquement des courriers électroniques, des éléments sur Facebook et autre chose. C'est une autre époque.
Alors, de façon assez concrète, si des personnes veulent se procurer tous ces ouvrages dont vous nous avez parlé, vous en avez à disposition à l'archevêché ?
Alors, ces ouvrages sont en permanence en disposition au CDC, Centre de documentation catéchétique qui est derrière la cathédrale. Ils sont aussi disponibles ici, au secrétariat de l'archevêché. Et un certain nombre de librairies de Nouméa s'en munissaient. Et actuellement, on les voit peut-être un peu moins, ce qui est dommage, mais les ouvrages sont toujours disponibles et en nombre. Et tout récemment, on vient de mettre en route un nouveau tirage d'un nombre assez important d'exemplaires du livre de Georges Delbos sur l'histoire de l'Église en Nouvelle-Calédonie, parce que les 1800 exemplaires, autant que je me souvienne du premier tirage, ont été complètement épuisés.
Eh bien, Monseigneur, merci pour tous ces éléments d'histoire qui étaient vraiment passionnants. Et nous vous retrouverons bientôt pour d'autres aspects de votre action dans le diocèse de Nouméa. Merci à vous, amis auditeurs. Rendez-vous dimanche prochain à la même heure sur cette même antenne.